Bonjour. Merci d'être venu avec nous en ce mercredi matin. On a une rencontre avec Eric Lhomme. Eric Lhomme, pendant une heure, auteur jeunesse. On parlera peut-être de la classification des genres et pourquoi. Et donc, on va se balader et dans sa bibliographie et puis découvrir un petit peu l'écrivain et puis le bonhomme derrière, entre guillemets. Eric, t'es né en 1967 à Grenoble. Avec une enfance du côté de Diolfi.
Oui.
Merci.
C'est ça, c'est exact.
Voilà, jusqu'ici, j'ai tout bon. Avant que tu ne deviennes écrivain, c'était une enfance bercée par les livres.
Oui, alors, j'ai été toujours été un très gros lecteur. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai même, je crois, des souvenirs, des flashs, souvenirs du premier livre que j'ai réussi à lire tout seul. C'était un album de Babar chez mes grands-parents, les vieilles éditions. Et voilà, j'étais tout fier. Une bibliothèque familiale très fournie aussi. Donc, alors, ça ne fait pas tout parce que j'ai quatre frères, mais trois frères qui me suivent d'assez près. Et je suis le seul lecteur. Donc, ça n'est pas tout d'avoir une bibliothèque à portée. Il faut avoir peut-être une nature particulière, rêveuse notamment, et donc entourée de livres. Et le désir d'écriture est arrivé très tôt, très vite, puisque c'est en classe de 6e, je me rappelle très bien, que je me suis fait cette promesse, un jour je serai écrivain, en faisant mes premières rédactions. Il faut dire que enfant rêveur, donc se projetant beaucoup dans le fantasme et dans l'imaginaire, j'ai toujours été persuadé que j'étais pas sur Terre par hasard. Donc j'ai longtemps pensé, est-ce que j'étais pas le fils d'un prince extraterrestre confié à des parents adoptifs, etc. Enfin, les fantasmes qu'on peut avoir quand on est enfant. Et à côté de ça, je faisais tout pour découvrir quel était mon super pouvoir, parce que forcément, si j'étais pas là par hasard, j'avais un super pouvoir qui allait m'aider à accomplir la mission que je ne connaissais pas encore, mais voilà. Donc j'ai mis mon frère qui me suivait le plus près, je l'ai mis à contribution. J'essayais de courir très vite, il me chronométrait, j'essayais de soulever des troncs d'arbres, voilà. Et puis donc en classe de 6e, alors que j'étais un élève ni bon ni pas bon, enfin normal, comme la plupart des enfants, et bien j'ai découvert en faisant mes premières rédactions que non seulement j'aimais bien et en tout cas raconter des histoires, mais qu'en plus, pour la première fois, je découvrais ce que c'était que d'avoir les meilleures notes de la classe. Et je me suis dit, je tiens là peut-être une piste de super pouvoir et j'ai insisté.
En préparant la rencontre, j'ai relu quelques interviews où tu parlais des vertus de l'ennui, entre guillemets, et du temps passé à rêvasser. Ça t'a aidé, ça ?
Oui. Alors, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup ennuyé, surtout à l'école. J'ai pas détesté l'école, mais je me suis beaucoup ennuyé, et s'il n'y avait pas les rédactions, le sport et les copains, ça aurait été assez horrible. Et oui, les vertus de l'ennui, parce que quand un garçon rêveur s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il rêve. Et j'ai commencé à me construire toute une série de mondes, de royaumes intérieurs très tôt. Et je pense que même maintenant... Alors ça se voit moins parce que quand on devient adulte, on apprend à tricher, à se camoufler, etc. Mais je pense que je passe la moitié de mon temps éveillé en rêverie.
D'accord.
Voilà. Arrive assez.
On parlait de ton enfance. En devenant jeune homme, est-ce que la lecture, l'écriture t'ont toujours aussi accompagné ?
Oui, toujours, avec des éblouissements réguliers. Moi, je crois énormément aux rencontres. Hein, la vertu des rencontres, que ce soit des rencontres physiques ou des rencontres de papier, comme je dis. Et les unes sont aussi importantes que les autres. Et tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens et des ouvrages qui ont été autant d'étapes. Ouais. vers ce que je suis aujourd'hui.
Tu peux nous en dire peut-être quelques-uns, est-ce que...
Oui, en termes de bouquins, la rencontre avec L'île au trésor, par exemple, ou La guerre des boutons, quand j'étais en sixième, ça a été vraiment important, parce que je me suis rendu, c'est là que je me suis rendu compte que le pouvoir d'un livre, agissait vraiment une fois qu'on l'avait refermé. Et quand j'avais refermé L'île au trésor, qu'est-ce que je faisais avec mes frères, les copains et tout ça? Eh ben, on allait se construire un fortin dans les bois. On allait, le livre avait cette magie, cette puissance d'entraîner dans la réalité une partie de son imaginaire. Pareil pour La guerre des boutons, on s'était fait des épées en oistier, on avait piqué tous les couvercles de poubelle pour s'en faire des boucliers, on se tapait dessus allègrement. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'important. La découverte un peu plus tard de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, a été aussi un choc. J'ai eu des éblouissements littéraires aussi, notamment en découvrant Marguerite Yourcenar, ce qui a été vraiment très important, puisque j'ai découvert tout le pouvoir des mots. Non plus des histoires, mais des mots, à savoir qu'on pouvait faire naître de la lumière simplement avec des mots, c'était extraordinaire, et ainsi de suite, enfin voilà.
Dis-nous un petit mot, toutes tes bibliographies parlent de ta période voyage, entre guillemets, où t'as passé pas mal de temps dans des pays lointains. Est-ce que ces voyages ont aussi construit certaines de tes histoires, et est-ce que tu écrivais aussi pendant ces voyages-là?
Alors les voyages n'ont pas vraiment construit mes histoires, les voyages m'ont construit moi, donc mes histoires indirectement. Alors tout le monde me dit ouais c'est génial, Eric l'aventurier, etc. Mais en fait je n'ai rien d'un aventurier, je suis simplement, j'ai le malheur d'être un intello honnête. En fait, c'est-à-dire que à un moment donné, je me mets à rêver, à imaginer, à penser à des choses, et à un moment donné, il faut que je corresponde à ces choses-là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai rêvé en lisant des romans d'aventure, et ben, je ne pouvais pas faire autrement qu'à un moment donné me lancer dans l'aventure à mon tour pour voir comment ça faisait. Voilà. Mais quand on est très rêveur, c'est pas terrible pour être un aventurier. J'ai eu la chance de partir faire mes premiers grands voyages, mes 2 années au Pakistan, mes voyages presque équivalents aux Philippines, etc., en compagnie de mon frère second. On se suit de très près, et lui, c'est un petit peu l'autre face de la pièce. Il tape d'abord et réfléchit après, il sent instinctivement les choses, voilà, il est ancré dans la réalité, et c'était formé un très bon binôme pour ça. Et oui, donc mes voyages m'ont entraîné alors c'était pas des voyages anodins non plus, puisque ça serait trop simple de partir en voyage pour partir en voyage. Mon premier grand voyage, je suis parti chercher le Yeti dans les montagnes du Nord Pakistan. Ça me semblait moins fou que de continuer à préparer mon agrégation d'histoire. Voilà. La perspective d'une routine m'effrayait plus que celle de côtoyer des tribus pachtounes sauvages, et etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé par ça. Ça m'a bien marqué. J'en ai rapporté d'ailleurs deux choses, mais bien après, des contes qu'on a royaume perdu pour les plus petits, puisque en 2 ans, ben, on a quand même le temps d'apprendre une langue, simplement pour communiquer au quotidien. Donc à partir de cette langue, j'ai pu recueillir pas mal de choses. Et puis j'ai écrit un récit de voyage qui s'appelle Des pas dans la neige, hein, dans lequel je raconte non pas tout l'expédition, mais mes souvenirs les plus marquants. Voilà.
En parlant de rencontres, on glisse doucement vers le premier roman. Et le premier roman, il date de 2001, et il est le fruit aussi d'une rencontre.
Alors, il est le fruit de deux rencontres.
De deux.
Une rencontre de papier et une rencontre de chair. D'abord, c'est dans l'ordre, c'est la rencontre de Cher avec un homme extraordinaire qui est écrivain lui-même, jeunesse et adulte, qui est un petit peu mon Pygmalion. Il y a bien un moment donné où quelqu'un vous prend en main, vous aide aussi à devenir ce que vous êtes. Il s'appelle Jean-Philippe Arouvigno. Il donne pas tellement dans la SF et le fantastique, mais il est assez connu des collégiens. Il écrit Enquête au collège, Les aventures de Pépé Cuvert, Une famille aux petits oignons, etc. Et c'est Jean-Philippe que j'ai rencontré par hasard. Alors, il faut quand même que je raconte l'histoire, l'anecdote en entier, parce que c'est quand même toujours bizarre. Hein. Je pense que dans la vie, il y a le destin qui se balade un peu comme un grand monstre marin. Et puis, hop, il y a des créneaux, des fenêtres, et on peut les apercevoir. Et à ce moment-là, il faut saisir ce créneau, sinon on passe à côté de tout. Et je me baladais dans une librairie, j'aime beaucoup me balader dans les librairies, je regarde les livres, les titres, je caresse les ouvrages, enfin, y a un côté tactile presque avec le livre. Et là je vois un bouquin qui est paru chez Gallimard dans la collection blanche NRF qui s'appelle L'homme du cinquième jour. Je trouve le titre poétique, Jean-Philippe Arouvigno, je le retourne. Et c'est un roman qui raconte l'histoire d'une expédition de jeunes gens partis en Asie centrale chercher à la recherche du Yéti. Alors je me dis, tiens, c'est quand même un peu fort, parce que je revenais quelques années auparavant de la même chose. Donc je le prends, je le lis. Là, je comprends deux choses. La première, c'est que l'auteur a écrit ce livre sans quitter son bureau. Mais que malgré tout, même sans avoir quitté son bureau, il a compris certaines choses, comme les auteurs peuvent comprendre des choses comme ça, intuitivement, par la magie de l'éther. Et donc je décide de lui écrire. Alors je lui ai écrit, voilà, cher monsieur Arouvigno, je viens de lire votre livre. Et bien il se trouve que vous racontez presque un peu mon histoire, qui s'est vraiment passée. Alors évidemment, par retour de courrier adressé chez Gallimard, au bon soin de Gallimard, etc. Par retour de courrier, j'avais une réponse de Jean-Philippe. Ah, c'est extraordinaire. C'est pas « Venez, chère grande âme », comme il était dit à Rimbaud, mais je serais très heureux de vous rencontrer. Je déjeune avec lui lors d'un de mes passages à Paris. Et anecdote dans l'anecdote, c'était très drôle parce qu'il m'invite on va dans un restaurant qui était assez cher à côté de chez Gallimard. Et j'avais comme dans la plupart du temps dans ma vie, j'avais pas un rond. Et mon bonheur de la rencontre a été parasité par l'angoisse de et si je dois payer ma part, comment je vais faire. Voilà. Bon, bref, c'est le genre de petit truc débile, mais qui marque aussi. Et alors bien évidemment, j'ai rien payé. Et on discute et on se rend compte qu'on a plein de points communs avec Jean-Philippe. Bob Moran, Tintin, toutes ces aventures-là. Et puis à la fin, j'ose lui dire que le rêve de ma vie, c'est de devenir écrivain un jour. Et il me dit, écoute, je ne suis pas seulement auteur, je suis directeur de collection chez Gallimard Jeunesse. Si un jour t'écris pour la jeunesse un texte, je te lirai volontiers. Je te dis pas du tout que je te publierai, mais je te lirai et tu auras mon retour. Alors je rentre complètement excité chez moi. Je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Il faut pas que je me plante, parce que si j'envoie un truc moisi, j'aurai plus jamais de ses nouvelles. Et là, deuxième rencontre, la rencontre de papier, les premiers tomes de Harry Potter qui venaient de sortir en poche, les trois premiers tomes, je rappelle quand même que personne misait un copec dessus, ils sont sortis en folio junior, comme sortaient en folio junior les livres, voilà, sur lesquels on misait pas grand chose. J'ai trouvé ça génial, j'ai tout dévoré, et je me suis dit voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est raconter une histoire d'apprenti sorcier, mettre en scène la façon dont moi j'envisage la magie. Et là, de manière un peu hallucinée, en deux mois, j'écris le premier jet du premier tome du Livre des Étoiles et je lui envoie. Et 15 jours après, j'ai une réponse. Y a quand même du boulot, mais on le prend. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
Ça veut dire que tu n'avais pas de manuscrit prêt à ce moment-là? Le rapport à l'écriture dans ta vingtaine d'années, Il était plus distant.
Quand on rêve d'être écrivain quand on est jeune, à aucun moment on s'imagine écrivain de livres jeunesse. Ouais. On s'imagine écrivain, écrivain maudit, écrivain germano-pratin, on s'imagine voilà, écrire des livres adulés par une poignée de connaisseurs, et puis c'est tout, et voilà, mais absolument pas un livre jeunesse. Donc j'avais rien de prêt en jeunesse, non.
Et t'as conscience tout de suite d'écrire pour la jeunesse sur ce premier roman-là ?
Oui, tout simplement parce que mes personnages principaux ont entre 12 et 13 ans. Donc à partir du moment où mes personnages principaux et donc leur histoire, le monde dans lequel ils vont évoluer et l'histoire qu'ils vont vivre, tout ça va être vu à travers les yeux de personnages qui ont 12-13 ans. Forcément c'est un ouvrage jeunesse.
C'est tout de suite de la fantasy. Pourquoi le choix du genre?
C'est un choix tout à fait naturel. Ouais. En fait, hein. Petite précision, alors généralement quand je dis ça, quand je raconte ça aux élèves que je rencontre en classe, je prends immédiatement pour eux l'apparence d'un extraterrestre venu de très loin et d'il y a très longtemps. Mais j'ai eu une enfance sans télé. On n'avait pas la télé dans ma famille. Et mes parents ont eu le bon goût de ne pas dire il n'y aura pas la télé et point barre. Non, il n'y aura pas la télé parce qu'il y aura autre chose à la place. Mmh. Et tous les soirs, tour de rôle, mes parents nous lisaient des histoires. Alors l'été sur des coussins sur la terrasse et puis l'hiver près de la cheminée. Et j'ai cette enfance bercée par des histoires. Alors, c'était pas des histoires anodines, c'était mon père, c'était tout ce qui était le fond des contes et légendes, des mythologies, etc. Et ma mère, c'était les grandes sagas et épisodes, donc le merveilleux voyage de Nils Holgersson, etc. Et donc la porte grande ouverte pour la fantasy, en fait. La fantasy puise sa matière dans les contes et légendes et mythologies. Voilà, donc c'était tout à fait normal d'aborder pour un roman le thème de la fantasy.
Ouais, les littératures de l'imaginaire, parce que dans ta bibliographie, il y a aussi de la science-fiction, il y a aussi du fantastique. C'est comme ce premier roman naturel ou du coup c'est devenu un choix un petit peu par la suite pour placer des histoires différentes?
C'est les deux en fait, c'est un vrai choix, mais en même temps ça tombe sous le sens. En fait, quand je passais mon temps à me raconter des histoires dans ma tête d'enfant, je ne me racontais pas des histoires de la vie de tous les jours, je me racontais des histoires extraordinaires, des histoires où j'étais quelqu'un d'autre, des histoires où je vivais des aventures qui ne pouvaient pas arriver. Et je me suis toujours dit que les lecteurs avaient peut-être envie de ça aussi.
D'accord. Le deuxième roman, Les Maîtres des Brisants, c'est donc plutôt de la science-fiction. Et puis il y a Phanoméon,
Phénomène,
en 2006, ouais. Avec des enfants au pouvoir surnaturel. Hein. Mmh. Et la thématique de l'enfance avec des pouvoirs, ça vient de ton enfance? Mmh. Ou est-ce que c'est aussi pour mieux éclairer parfois les difficultés ou les aspects compliqués de l'enfance?
C'est les deux, en ouais. fait. C'est évidemment le retour sur sa propre enfance, puisque, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de métier qui me mette en contact au quotidien avec des enfants. Donc où est-ce que je puise mes modèles d'enfants? Dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il suffit juste de fermer les yeux pour me revoir tel que j'étais à 12 ans, à 13 ans ou à 15 ou 16 ans quand j'ai créé le personnage de Jasper plus tard pour Acom Association. Et puis tous les copains qu'il y avait autour, etc. Et à partir de là, j'ai fait un pari qui s'est révélé payant. C'est-à-dire, je sais assez peu ce qui fait le quotidien, l'environnement culturel immédiat des jeunes d'aujourd'hui. Moi, je fais le pari de tout ce qui ne change pas depuis des décennies ou des générations chez l'enfant. Son désir d'aventure, ça, la puissance de l'amitié, l'angoisse de trouver sa place, de ne pas être abandonné, d'être aimé, etc. Enfin, des choses qu'on retrouve de tout temps. Et puis après, comme je situe tout ça dans des univers fantastiques ou de fantasy ou de science-fiction, donc reconstruits, ouais. Je peux bien faire ce que je veux.
Yeah. On avait une discussion hier sur une table ronde autour de la littérature jeunesse, et il y avait un peu ça qui ressortait dans ce que tu disais, l'envie de faire ce que tu voulais avec plein de guillemets, mais en tout cas l'envie première de d'abord écrire une histoire, et puis après de voir un petit peu quelle résonance elle pouvait avoir.
Oui, je pense que, enfin, moi c'est comme ça que je fais. Je ne pense pas à. Je ne construis pas mon histoire en disant qu'est-ce que les lecteurs voudraient lire comme histoire. Alors ça veut pas. Je pense quelle histoire j'ai envie de raconter. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux lecteurs qui vont la lire, mais je commence comme ça. Quelle histoire j'ai envie de raconter. C'est ça qui me motive, au départ. Voilà. Quant à la table ronde d'hier, il faut faire très attention avec moi, parce que je peux d'une table ronde à l'autre défendre un point de vue totalement différent. Ça dépend quel est le point de vue des autres, mais j'aime bien prendre le contre-pied. Donc voilà.
D'accord. Quel rapport, justement, on parle des enfants, quel rapport au public, parce que la littérature jeunesse, c'est aussi beaucoup de rencontres avec les lecteurs. C'est peut-être une des littératures les plus en prise, entre guillemets, avec ses lecteurs. Quel rapport tu as et quelle place ça a pour toi en tant qu'écrivain?
Alors c'est vrai qu'en jeunesse, on est amené à faire beaucoup de rencontres, que ce soit sur les salons, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les librairies, dans les médiathèques. Je dirais même qu'il faut faire attention, parce qu'il y a un moment donné où les rencontres peuvent très vite prendre le pas sur l'écriture, sur la création. À tel point, par exemple, que l'année dernière, après 15 ans de métier, j'ai ressenti très fortement le besoin de faire un grand break. Je fais une grosse année sabbatique sans rencontre, sans salon, presque sans écriture, parce que toutes ces rencontres, tout ce foisonnement, tout ce bouillonnement qui est extrêmement enrichissant est très fatigant aussi. Et à un moment donné, on a envie d'être frais, on a envie de donner aux enfants qu'on rencontre ou aux jeunes qu'on rencontre tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Puis à un moment donné, on se sent vide. Enfin, moi, je me suis senti vide et j'avais envie de retrouver une certaine fraîcheur. Voilà.
Comment on retrouve une certaine fraîcheur? Simplement en arrêtant ou en faisant d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de faire à ce moment-là?
Oui, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai consacré mon année à faire ce que je ne pouvais pas faire justement à cause des rencontres. C'est vrai que le métier d'écrivain, c'est quelque chose de formidable, surtout quand on a comme moi la chance de ne faire que ça. Je n'ai pas d'autre métier à côté. On est libre de son temps. On gère son temps comme on veut. Donc ça, c'est formidable, mais en même temps, c'est faux. Parce que quand on accepte les salons, les rencontres, etc., on se rend compte que son agenda est bourré de petits points. Presque un an à l'avance, on sait ce qui va se passer, même si on a énormément de marge entre tout ça. Mais ça crée quand même un sentiment de voilà, on est bloqué. On est là, je faisais ce que je voulais quand je voulais, mais vraiment, vraiment sans rendez-vous, sans rien. Et alors ça peut paraître tout bête, je ne suis pas parti chercher ni le monstre du Loch Ness ni d'autres trucs comme ça. C'est peut-être l'âge qui veut ça aussi. On ne cherche plus les mêmes choses quand on vieillit. J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris ma toile bivouac, j'ai pris mon réchaud à bois et je suis parti marcher. Je suis parti marcher en France. Alors je vais reprendre une expression que je vais emprunter à Pierre Bottero. Il suffit de faire un pas de côté et le monde, on change de monde en fait. Et le pas de côté, c'est quitter les routes pour les chemins, c'est le soir s'arrêter quand arrive le moment du bivouac. On repère un bois, on va y caler sa tente, on allume son petit feu. On est à 100 mètres de la vie des autres. Mais on est dans un autre monde, dans une autre dimension. Et j'avais besoin de ça, de revivre à nouveau ces impressions d'être ailleurs tout en restant dans le monde qui est le mien.
On va venir à comme association, mais sur le métier d'écrivain, comment est-ce que toi tu t'organises et comment est-ce que tu alimentes la fabrique à histoire? Est-ce que par exemple ces marches alimentent aussi ton imaginaire?
Alors la marche a ceci de formidable que alors je ne sais plus quel penseur disait ça, mais c'est la plus spirituelle des activités physiques. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout incompatible, au contraire, avec la pensée. Et un autre philosophe disait qu'il faut se méfier des idées qui ne sont pas venues en marchant. Et moi, je construis énormément de choses en marchant, tout en prenant le temps quand même de regarder autour de moi, de profiter de ce qui m'entoure. Le gros avantage, c'est que je n'ai besoin de rien noter. Avec le temps, je me suis fait aménager dans ma tête une petite un espace mémo dans lequel je place mes idées, mes images, etc. Et le gros avantage par rapport au mémo qui fige les mots, les phrases, etc., c'est en constante évolution dans ce coin de tête. Voilà.
Parlons d'une autre rencontre, c'est celle avec Pierre Bottero, justement, qui va dériver sur A comme Association. Avant la série, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez imaginé écrire ensemble?
Alors, c'est un des autres avantages des salons, c'est que les salons permettent non seulement des rencontres avec les lecteurs, mais aussi des rencontres entre auteurs. Et j'ai rencontré Pierre Bottero sur un salon à Montreuil en 2003. Et puis ensuite, on s'est revus dans d'autres salons, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on n'a plus besoin de salon pour se revoir. On a été un petit peu chez l'un, chez l'autre. Et dès le départ, on s'est dit, faudrait qu'on pense à faire quelque chose ensemble. J'écris pas du tout comme toi, mais on a tout plein de références communes, on a tout plein de choses en commun. Et ben, il s'est passé énormément de temps avant que la possibilité de travailler ensemble se fasse, avant que naisse l'opportunité, surtout dans les agendas, dans les tiens, je viens de terminer ma série, ah ben moi aussi. Alors là, soit on repart dans un autre livre, chacun, soit on attaque ce qu'on s'était dit depuis toujours. Et ben ça, c'est ce que je raconte dans la préface de A comme Association. Ça s'est vraiment passé. Je sentais que le moment était là. Je sentais que Pierre, de toute manière, qui ne peut pas s'arrêter d'écrire. Lui, il fallait qu'il écrive tout le temps. Je sentais qu'il allait repartir sur quelque chose. J'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, Pierre, tu te rappelles ce projet qu'on avait ensemble. Ben ça y est, j'ai une idée géniale, il faut absolument que je t'en parle. Ah ouais, super et tout. Passe à la maison quand tu peux. Donc j'ai été chez lui, je me suis retrouvé devant sa cheminée, devant un café, on sait pas, un café. Et puis je lui ai dit, Pierre, je ne vais pas te mentir, je n'ai absolument pas d'idée géniale, mais on est là avec visiblement une grosse cafetière, un peu de temps, l'idée géniale, on va la voir maintenant en discutant ensemble. Donc ça l'a beaucoup fait rire et on a commencé à discuter et on a fait donc des ping-pong de tac-tac-tac, voilà, tiens, moi je verrais bien ci, je verrais bien ça. Et on s'est rendu compte en 20 minutes de discussion, au bout de 20 minutes, on s'est arrêté de parler, on s'est regardé, nos yeux brillaient et on s'est dit, mais ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on est hyper réactif l'un avec l'autre, etc. Donc j'ai passé une nuit assez folle avec lui, on a quasiment pas dormi, on est passé du café au whisky, au café, whisky. Et on a construit toute la Bible de A comme Association, le synopsis des quatre premiers tomes. Enfin, on a fait énormément de choses en une nuit. Et puis ensuite, on est reparti chez nous, dormir un peu, puis nous mettre au travail.
Comment vous êtes justement réparti le job? Chacun avait son personnage.
Oui, parce qu'on a compris ce que je disais tout à l'heure, on a compris très vite qu'on n'écrivait pas du tout de la même façon. Pas de la même façon, pas forcément les mêmes choses, donc on ne pouvait pas écrire à demain. Et la meilleure solution, ça nous est apparu tout de suite, c'est chacun un personnage, chacun un livre, on reste maître à bord dans son livre, et simplement on tisse entre nous tous les liens qui doivent exister entre nos différents livres. Et c'est comme ça que Pierre a... Ah oui, autre anecdote amusante, c'est dit, ah tiens, on va choquer les lecteurs qui ont l'habitude de toujours me voir avec des personnages féminins. Allez, je prends le personnage masculin. Et moi, j'ai dit, ah ben moi, je fais toujours le personnage masculin, je prends le personnage féminin. Puis on s'est regardé, puis on a fait, non. Non, non, je garde mon personnage féminin et tu prends ton personnage masculin. Et voilà, c'est comme ça que...
C'est facile de partager son imaginaire, parce que écrivain, c'est un métier relativement solitaire, en tout cas dans l'acte d'écriture, de partager, de le voir évoluer différemment.
Oui, c'était assez fascinant. C'était une expérience inoubliable d'écriture, puisqu'on avait, comme je le disais, construit notre Bible, construit la base de notre série, mais en se laissant malgré tout une grande liberté de pour avancer, hein, sinon c'est pas drôle. Et en fait, c'était le premier arrivé qui dit à l'autre ce que l'autre doit faire. Par exemple, hop, petit coup de fil à Pierre. Pierre, je te signale que Jasper et Ombe, Ombe c'était le personnage de Pierre, Jasper mon personnage, que Jasper et Ombe viennent d'assister à un séminaire sur les trolls. Ah, il me fait « Ah, salaud !» Et il dit « Envoie-moi la scène pour que je puisse raconter, nos livres se répondent un peu en miroir, ça passe en même temps, pour que Ombe puisse raconter de son point de vue la scène des trolls. » Et puis, quelques jours après, il m'appelle avec la malice dans la voix en disant « Ah bah tiens, je te signale que Ombe et Jasper viennent de faire ci. » Je fais « Ah, salaud !» Et hop, je reprends. Et on a avancé comme ça, en se motivant l'un l'autre avec des scènes. Et puis quand c'est arrivé une ou deux fois, l'un ou l'autre, on ne sentait pas la scène que l'autre proposait. On a dit non. On discutait, on remettait d'aplomb les choses, parce qu'il fallait quand même que ça soit efficace et que l'intrigue n'empathisse pas.
Et comment tu as fait, malheureusement, après le décès de Pierre, pour continuer, se remettre dans sa partie d'univers à lui ?
Alors, c'était très particulier, puisque quand Pierre a eu son accident, la série n'était... Enfin, aucun tome n'était sorti. Donc, nos éditrices, puisqu'on avait réussi à faire travailler nos éditeurs ensemble, ce qui est assez rare dans le milieu... donc Claudine, la femme de Pierre, m'ont entièrement laissé libre de choisir. Ils m'ont dit, c'est entre tes mains, mais ce qui est sûr, c'est que si tu arrêtes la série, rien ne paraîtra, parce que c'est inachevé. Et voilà. Donc j'ai réfléchi. J'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là, je pars marcher. Donc je suis parti marcher en Grèce pendant 3 semaines. Je suis allé jusqu'à Delphes pour voir si la Pythie n'allait rien me souffler. J'ai eu aucune réponse là-bas. Donc ça arrive, hein. Donc je suis revenu et j'ai commencé à écrire le premier chapitre du 5e tome. Et je me suis dit, si jamais... je sens que c'est trop dur, je baisse les bras. Si je sens que ça le fait, eh ben on y va. Et ça l'a tout de suite fait. J'ai appelé les éditrices, j'ai dit c'est parti. Et à partir de là, j'ai écrit le 5e tome pour... voilà, un 5e tome assez difficile, hein, je ne sais pas si certains l'ont lu ici. Mais c'est un 5e tome que j'ai donné à tous les lecteurs de Pierre... Qui se débattaient avec leur deuil, en fait, qui avaient énormément de mal à accepter la mort de Pierre. Et j'ai dit, ben voilà, hop, ce 5e tome, c'est pour mettre les choses au clair, puisque j'ai ramené, c'est la fiction qui correspond à la réalité, et j'ai fait disparaître en quelque sorte le personnage de Pierre, en même temps que lui. Même si le personnage de Pierre, c'est le bonheur d'être auteur et de faire du fantastique, n'a pas complètement disparu, puisqu'il s'est retrouvé dans la tête de mon personnage. Évidemment très allégorique. Et j'ai écrit 5e tome pour dire à tous ces fans éplorés, j'ai dit, bon, ça suffit, la vie continue. Pierre n'est plus là. Mais il peut être toujours là si vous ouvrez ses livres. C'est aussi l'inégalité de conditions. Un écrivain, il ne meurt pas tant qu'on le lit, en fait. Et voilà, je pense que ce 5e tome a fait du bien à plusieurs lecteurs. Et à partir de là, bah, j'ai raccourci la série qui devait comporter 13 tomes, mais il n'y en a plus que 8. Et l'action ne se fait plus que par mon personnage, mais avec l'omniprésence fantastique de Ombe.
Quel regard tu portes sur cette série 8 tomes, c'est une paire d'années quand même, c'est une importance particulière dans ta bibliographie. Maintenant qu'elle est terminée, maintenant que tu as publié d'autres livres, quel regard tu as sur toute cette partie de ta biblio?
À comme association, du coup, je considère que c'est un projet qui est complètement fou et je le referai pas. Là, enfin voilà, je sais pas comment j'ai fait pour le mener à bout. J'étais bien soutenu par l'éditrice de Pierre et mon éditrice. Et voilà, j'ai été jusqu'au bout pour, en quelque sorte, j'espère que je ferai bondir personne, pour m'en débarrasser. Parce que c'était extrêmement pesant. J'avais décidé d'aller jusqu'au bout. C'est peut-être l'ancien scout qui est en moi. Un scout ne fait jamais rien à moitié. Donc il faut aller au bout de ce qu'on a décidé de faire. Donc j'ai été jusqu'au bout. Et content d'en avoir terminé. Puisque moi, par contre, je n'ai pu faire le deuil de Pierre qu'à la fin du 8e tome. Et non pas comme je le proposais dans le 5e tome, quoi.
Il a fallu un peu plus de temps.
Plus de temps, parce que Pierre continuait à être là chaque fois que Ombe intervenait dans l'écriture.
Une dernière question sur Acom Association. J'ai vu qu'il y avait des fanfictions. Et c'est ton rapport justement à ces auteurs ou ces auteurs amateurs qui écrivent des histoires dans l'univers d'Acom Association, de peut-être d'autres, de certains de tes livres. Quel rapport tu as à ça? C'est quelque chose que tu autorises bien volontiers?
Ben, je ne suis pas trop, en fait. Bon, sauf pour Acom Association, puisque une particularité de Acom Association, c'est que la série était accompagnée par un site internet assez actif, avec un forum de membres, avec plein d'initiatives également. Par exemple, genre rédaction, quoi. Ça y est, Jasper est en vacances cet été. Ben, si vous avez des nouvelles, si vous le voyez, si vous l'apercevez, s'il a vécu une aventure, ben, vous nous la racontez, vous nous l'envoyez, et celui qui est rapporte la meilleure histoire une avant-première du tome suivant, ou des choses comme ça. Donc il y a eu toute une dynamique extrêmement agréable et sympathique autour de ce site et autour de tout ce que ça a pu générer comme création. Et d'ailleurs, Jasper, j'ai fait aussi plein de bonus pour Jasper dans ce site.
C'est facile en tant qu'auteur de voir d'autres gens s'emparer de son univers?
Oui, c'est... Moi, j'aime bien. Enfin, je pars du principe, je suis toujours parti de ce principe qu'un livre publié n'appartenait plus à l'auteur. Voilà. Donc c'est.
D'accord. C'est ton sentiment.
Oui, tout à fait.
Il y a débat là-dessus.
Oui,
il y a des auteurs qui n'aiment pas du tout.
C'est mon sentiment. Le lecteur, à partir du moment où il s'empare du livre, le livre lui appartient. Il a le droit de trouver ça nul, il a le droit de trouver ça génial, il a le droit de pleurer, il a le droit de se moquer, il fait ce qu'il veut.
Un petit mot sur. On va avancer. Il y avait notamment le Regard des Princes à minuit qui est sorti en 2014, où là, pour le coup, c'est un ensemble d'histoires courtes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, c'est fait partie des quelques livres que j'appelle un peu ovni de ce que j'ai pu écrire. Ce n'est pas du fantastique. Dans les ovnis, il y a mes contes Narium perdu, il y a mon récit de voyage des pas dans la neige. Et Le Regard des Princes à minuit. Il y a aussi Cochon Rouge, qui est un récit historique à 8 voix sur la disparition des derniers Indiens de Terre de Feu. Mais Le Regard des Princes à minuit est né de plusieurs discussions que j'ai eues avec des grands lecteurs de Acom Association autour des salons, etc. Et j'étais assez frappé du « on s'ennuie dans notre monde ». On ne sait pas trop quoi faire en gros d'intelligent ou d'original pour un peu le réenchanter. Que faire? Donc je me suis dit, tiens, je vais m'emparer de ça et je ne vais pas faire un manuel parce que c'est pas mon truc d'être jouer le pédagogue. mais je vais proposer à travers sept récits dans notre monde actuel, pas du tout fantastique, sept récits de jeunes gens qui vivent des choses un peu folles, qui partent toutes ces choses-là partant de choses vraies et expérimentables. Voilà. Par exemple, aller dans une des scènes, aller danser des mazurkas clandestines sur des lieux publics. Donc se réapproprier les lieux publics par la danse et la musique et la sensualité. Escalader Notre-Dame. Partir bivouaquer dans Brocéliande pour en écouter tous les murmures. Aller saboter un relais de télévision pour obliger les gens à passer une soirée à lire. Voilà, autant de choses qui sont à la fois c'est à la fois une sorte de révolte, enfin des révoltes saines en fait, ce qu'on appelle des révoltes poétiques.
Ouais. Est-ce que c'est, alors il y a deux questions à poser. D'abord, la forme courte quand on écrit des trilogies ou des romans, est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Est-ce que c'est un exercice particulier et contraignant? Comment tu l'as abordé? Comment tu l'abordes toi?
C'est très reposant.
Ouais, c'est vrai.
C'est à la fois très agréable, c'est difficile. Hein, c'est difficile parce que mais du coup j'ai beaucoup plus travaillé le style, et c'est d'ailleurs le seul livre publié par Gallimard que Gallimard ne m'a absolument pas ou quasiment pas repris en termes de correction. Voilà, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur la forme et oui, c'est plutôt une belle expérience.
Tu parlais de révolte saine. Mm-hmm. Oh, c'est intéressant, ça rejoint aussi ce qu'on disait hier. La responsabilité ou non de l'écrivain jeunesse dans, de temps en temps, la transmission de valeurs, de messages, mm-hmm. de révolte, mm-hmm. comment tu te positionnes par rapport à ça?
Je dirais...
Est-ce que tu t'en sens une ou pas, hein? C'est pas du tout...
C'est pas mon... C'est hyper délicat de répondre à cette question parce que la plupart des séries que j'ai écrites s'adressent à, on va dire, à des lecteurs en cœur de cible, c'est 10-12 ans. C'est assez difficile de parler de révolte à cet âge-là, de révolte contre le système ou contre les choses. Pour les 10-12 ans, on va plutôt... Enfin, j'aborde plutôt d'autres thèmes. Là, on est plus motivé par l'aventure que par la révolte, en fait. La révolte, elle vient, c'est aussi hormonal, c'est aussi lié à l'âge. Et après, dans mes livres, à part Le regard des princes à minuit, qui est un peu différent, je m'adresse à des plus grands, donc des jeunes gens capables de... Enfin, que je considère responsables. Les révoltes de mes autres personnages adolescents, ils se révoltent pour dans une dynamique de compréhension du monde et de trouver sa place dans ce monde. Voilà. Le regard des princes à minuit, c'est encore autre chose. C'est un âge où on s'est rendu compte que finalement on ne peut pas se faire sa place dans le monde. Le monde nous accorde une place. Et si on veut vraiment se faire une place, il faut jouer une vraie place, il faut jouer des coudes et ne pas se laisser faire. Mais bon, ça, à chaque fois, c'est il y a des âges pour entendre ça et pour comprendre ça. Et moi, personnellement, je me considère un révolté permanent, donc je ne vais pas inciter mes lecteurs à être sages, forcément. Mais je ne vais pas, ça aurait aucun sens de les lancer sur des barricades depuis le confort de mon bureau. Voilà, j'essaye moi de faire en sorte que les lecteurs, éventuellement mes lecteurs, puissent se questionner, puissent découvrir des pistes et pour ensuite vivre leur propre vie, s'approprier découvrir leur propre révolte.
Un petit mot, mais alors du coup éditorial, parce que du coup je regardais la bibliographie de plus près et tout est chez Gallimard ou pas loin. Oui. Raconte-nous, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, nous, en tant que lecteurs, ce rapport entre l'auteur et l'éditeur.
Alors, c'est, je suis quand même un cas un peu à part hein, dans le milieu, parce que 15 ans d'écriture, une vingtaine d'ouvrages et tout chez le même éditeur, c'est pas, voilà, je ne suis pas représentatif du milieu des auteurs. Y a des avantages et des inconvénients. Avantage pour moi, c'est que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect, à l'affectif. Et quand on passe 15 ans dans une maison, on fait partie de la famille, on a des amis, on va dans tous les bureaux, on claque la bise à tout le monde. C'est voilà. On est aussi un auteur maison, donc dès qu'il y a des manifestations un peu particulières où il y a de la représentativité qui est demandée, ben on va m'envoyer plutôt qu'un autre, parce que je suis, comme ils sont sûrs que je vais pas en profiter pour vendre mes bouquins dans d'autres maisons d'édition. Voilà, mais après il y a des inconvénients, c'est-à-dire que ben c'est comme dans tout couple, au bout de 15 ans de vie commune, le désir de séduire s'émousse. Voilà, on fait partie un peu de voilà, on est là, on est gentil, mais il y a plus la passion des débuts. Voilà, donc il faut voilà, c'est difficile de trouver le bon équilibre.
Ça c'était pour la relation auteur-éditeur. Je voudrais juste qu'on dise un petit mot, donc Time Dragon qui est le tout dernier, et puis maintenant que tu t'es de retour aux affaires, tes projets, mais d'abord Time Dragon.
Alors Terre Dragon, c'est une trilogie de fantasy, c'est ma dernière trilogie donc en date. J'ai écrite un peu de manière symbolique, j'ai parlé de l'année sabbatique que j'ai prise l'année dernière, de rupture. Voilà, moi, pour ma conception de la vie est une conception cyclique, c'est pas une conception linéaire, et j'ai eu le sentiment qu'un cycle se bouclait. Voilà, et pour boucler le cycle, j'avais commencé par une trilogie de fantasy pour les 10-12 ans et puis au-delà, et bien j'ai voulu terminer par la même chose, ce cycle. Donc là, je vais repartir sur des choses très différentes.
Est-ce que le nouvel Eric Lom peut, ouais, peut nous en dire
déjà
un mot,
quelque chose qui va être différent? C'est que le projet sur lequel je travaille depuis peu, parce que je suis revenu d'année sabbatique depuis peu, c'est un roman tout seul. Donc ce ne sera pas une série. Donc c'est déjà un gros changement, ce qui va être un peu plus gros que ce que j'écris d'habitude, avec un style formel qui risque de surprendre, et des thématiques futuristes, dystopiques, post-apocalyptiques assez péchues, j'espère. Mais j'espère inhabituelles.
D'accord. Un titre, même provisoire?
Non.
Ça marche, je te taquine. On vient de passer une heure. On a vu tout ce premier cycle, donc pour toi, quasiment tout en jeunesse. Quel regard tu portes sur tout ça, sur cette première partie de vie d'écrivain?
Eh bien, une sorte d'émerveillement, parce que je pense qu'on ne peut pas écrire pour la jeunesse si on ne garde pas en permanence la capacité d'émerveillement. Et cet émerveillement, c'est 15 ans après, je suis encore là. Voilà. J'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à écrire. Je ne me suis pas encore fait bouffer par les générations montantes de petits jeunes aux dents longues. Donc voilà, je suis émerveillé d'être encore là 15 ans après. Voilà, dans un beau milieu, même si il comporte toutes ces, comme dans toute société humaine, ces bons moments, ces mauvais moments, etc. Mais voilà, un chouette milieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Oui, attends, je vais apporter le micro.
Bonjour, je voulais remercier parce que j'ai vécu à la même période où, en fait, vous avez écrit le livre des étoiles. J'avais à peu près l'âge des personnages, donc j'ai adoré. Par contre, l'ouverture, la fin, on clôt vraiment l'histoire, mais il y a quand même une ouverture énorme sur une possible autre histoire. Et vous n'avez jamais pensé à continuer, puisque trois mondes différents, avec la fin qu'il y avait de quoi faire une suite, enfin une autre trilogie.
Oui, c'est tout à fait exact, même si c'est par pure inconscience que j'ai laissé une porte ouverte à la fin. Et j'ai eu motif à le regretter, entre guillemets, parce que j'ai quand même été submergé par les lettres pendant les 2 ans qui ont suivi. C'était avant le développement des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc les jeunes lecteurs écrivaient encore sur papier aux auteurs. Ils se contentaient plus de parler des auteurs entre eux sur des réseaux sociaux. Et j'ai été submergé de lettres me demandant la suite du Livre des Étoiles, ce qui prouve bien que je suis peu doué pour les affaires, parce qu'aujourd'hui, si j'en étais à mon 14e tome du Livre des Étoiles, je pense que je serais beaucoup plus riche que ce que je suis maintenant. Mais j'aime bien explorer plein de choses différentes. Donc, pour embêter tout le monde, je suis parti dans une trilogie juste après de Space Opera, voilà, bon, qui a dérouté tout le monde, mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, j'écris d'abord ce que j'ai envie d'écrire.
Ouais, ouais. Tu en reviens pas souvent finalement dans tes univers une fois que tes trilogies ou tes romans sont clos?
Non, bah parce qu'il y a d'autres personnages qui demandent à vivre. Et d'autres univers qui réclament de sortir du néant.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui.
Moi, je trouvais dans la trilogie du Livre des Étoiles et ensuite dans la trilogie de Space Hope que la place des jeunes filles était moins importante que par la suite avec Phénomène et la suite de ta bibliographie. Et je me demandais si c'était né d'une réflexion ou si c'est aussi toujours l'inconscient de laisser un petit peu plus de place aux jeunes filles dans tes livres par la suite.
Non, c'est beaucoup plus bête que ça. C'est que moi j'ai toujours grandi dans un univers de garçons et c'est pas facile, c'est pas naturel pour moi de mettre en scène des filles parce que c'est difficile de tomber juste. Et donc il y a plus de filles ou les filles ont plus de place plus tard parce que je me sentais de plus en plus à l'aise pour mettre en scène des personnages féminins. C'est aussi bête que ça. Et d'ailleurs dans le Livre des Étoiles je triche un peu puisque l'une des filles d'ailleurs est une sorte de garçon manqué, donc voilà, j'essaye de Bon, j'ai toujours ce problème. Je me dis que malgré toute l'empathie qu'un auteur peut avoir avec ses personnages, quand moi je mets en scène des personnages féminins, même si malgré tous mes efforts, ça restera toujours une fille vue par un garçon. Voilà, donc l'expérience, le métier rentrant, je me suis senti plus à l'aise pour développer les personnages féminins.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Bonjour, je voudrais vous demander si en termes d'orientation d'une œuvre vers un public, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez écrit tout d'abord avec l'intention d'adresser vos histoires à un public jeune ou vous avez écrit dans l'intention de partager une histoire à tout le monde et l'éditeur ensuite oriente cette œuvre-là plus vers un public jeune ou un autre ?
Non, le Livre des Étoiles, je l'ai résolument écrit en sachant que ça serait un roman jeunesse. Comme je disais tout à l'heure, c'est ma rencontre avec Jean-Philippe Arouvignot, le directeur de collection chez Gallimard Jeunesse. Il faut savoir qu'entre Gallimard Jeunesse et Gallimard, il y a très peu de passerelles. Donc, c'est pas « tiens, ça c'est pour toi », etc. C'est, si on adresse un roman en se disant « c'est soit adulte, soit jeunesse », ça se perd quelque part dans la rue qui sépare les deux maisons. Je savais que ça serait un roman jeunesse. Et d'ailleurs, quand j'écris un roman jeunesse, je sais que c'est un roman jeunesse. Ce qui peut changer, c'est l'âge de destination. Parfois, mon éditeur dit bah, « tiens, je vais plutôt la mettre dans cette collection ou dans ce type-là, parce que ça, à mon avis, ça s'adresse à des plus grands ou à des plus jeunes. Voilà. » Mais dès le départ, je sais quand même que ça sera de la jeunesse.
Est-ce que quelqu'un a une autre question, monsieur ?
Oui, est-ce que écrire pour la jeunesse n'est pas une manière de garder la jeunesse éternelle ?
Écrire pour la jeunesse, c'est une manière de ne garder la jeunesse éternelle ? Ben oui, c'est aussi plus... Plus que la jeunesse éternelle, c'est une manière d'immortalité, puisque, enfin, plus que d'immortalité, d'ubiquité. Je pense qu'un écrivain écrit aussi pour s'offrir le luxe d'avoir plusieurs vies. Hein. Et voilà, plus encore que l'immortalité, c'est ça qui est passionnant. Tiens, aujourd'hui, je suis ci. Tiens, aujourd'hui, je vais être ça, etc. Donc, plein de vies. Ce qui rend toujours un petit peu difficile le retour à la réalité.
Encore une petite question, une dernière. Ben, je trouve que c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Eric.
Ben, merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui.
Bonne journée à vous.
Merci.